Double Face, Valérie Ogier, Isabelle Bertolini.
On arrive au terme de cette rencontre, Martin Vetterli. Ce sont des questions du tac au tac, théoriquement questions courtes, réponses courtes, mais c'est comme vous voulez. Mais juste avant, je voudrais qu'on revienne quand même sur votre rôle de bassiste. Parce qu'en fait, il y a un parallèle évident entre le chercheur et le bassiste que vous êtes. Le bassiste, il tient l'orchestre, littéralement, il tient le groupe. C'est lui qui donne le rythme. Un chercheur, c'est pareil de ce que vous nous racontez.
Bon, celui qui donne le rythme, c'est le duo du batteur et du bassiste.
Puis après, mais les ça bassistes dépend. Vous diront si c'est eux qui portent.
Bon, ça dépend du style de musique. Right? Le bassiste a un rôle super important dans le jazz, dans le quatuor de jazz, dans les groupes de rock, ça dépend quel type de rock. Enfin, on pourrait parler longuement là, sur ça. Ici, le rôle qu'on a comme président de l'EPFL, c'est le rôle de chef d'orchestre. Vous avez 360, 370 profs. Donc là, vous faites le chef d'orchestre. Okay? Et puis, la partition, elle ne vous est pas donnée. Donc, il y a pas mal d'improvisation. Donc, est-ce que c'est le chef d'orchestre d'un big band de jazz? D'ailleurs, on avait à la magistrale cette année 2024. L'accompagnement musical est toujours très important. Et c'était un big band de jazz, mais qui est venu de Berne et qui a une saxophoniste fabuleuse qui s'avère être une ancienne doctorante à moi. Pour fermer un autre cercle.
Si on monte le fil, votre projet de science quand vous étiez petit, vous vous souvenez?
Alors, le premier, c'était plus un projet de bricolage d'ingénieur. Je me souviens qu'une fois, on m'avait montré une bande d'un Telex. C'est une méthode de transmission qui était utilisée, ça n'existe plus, etc. Et puis qui avait un code binaire comme ça. Et puis quelqu'un m'avait montré maintenant je ne sais plus, même plus comment ça s'appelle, mais un espèce de truc qu'on peut contrôler binaire. Puis j'avais réfléchi à ce truc que finalement on pouvait décoder le Telex avec un arbre binaire comme ça, mais je connaissais rien. Hein. Jules me disait, mais il y a un code, il faut trouver quelle lettre est mise dans tel code et il faut qu'il y ait un décodeur comme ça. Et ça, c'est le souvenir que j'ai. Je ne sais plus quel âge j'avais, puis je suis sûr que le truc a disparu, que c'était trivial. Mais c'était un problème qui est assez lié à ce qu'on fait encore maintenant en théorie de l'information. Donc, de façon complètement triviale. Ça, c'est le premier projet dont je me souviens. L'autre, vous parliez de Nicollier, c'était l'époque où les Américains allaient sur la Lune, donc tout le monde voulait venir astronaute. Et puis, avec mon frère, on avait bricolé des fusées, et puis on avait même passé à une émission de télé le mercredi après-midi, en culotte courte. C'était assez embarrassant, mais voilà, ça c'est les deux souvenirs que j'ai d'il y a très très longtemps.
On essaiera de retrouver les images. Votre première expérience de chimie?
Alors, je faisais de la chimie dans la cave chez mes parents, mais c'était, il y avait plutôt des trucs qui explosaient, etc. Mais ma vraie expérience de chimie, c'est que quand j'étais au lycée, je ne devrais pas raconter ça sur les ondes, là. J'étais assis au dernier rang et je lisais des bandes dessinées plutôt que de suivre le cours de chimie. Ce qui avait fait que le prof de chimie, j'espère qu'il n'écoute pas, il m'avait fait venir au tableau noir et il m'avait posé ce qui s'appelle un problème de stoichiométrie où vous mettez des formules chimiques et puis vous devez faire la transformation. Et il m'a dit, ben voilà, il faut résoudre ce problème. Si vous n'arrivez pas, je vous mets un 1. Okay? Et puis, je ne voulais pas détruire ma moyenne, donc j'ai essayé très fort de résoudre le problème au tableau noir. Donc il y avait 20 élèves qui rigolaient dans mon dos, et moi, au tableau noir, devant ce problème de stoichiométrie. Et puis j'essaye pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. À la fin, je dis, je suis désolé, j'arrive pas. Alors le prof dit, je vais le résoudre, puis je vous mets un 1. Et il va au tableau noir, et il n'arrive pas. Et donc, ouais, j'ai pas eu un 1 de chimie.
Oups. Alors justement, peut-être en rapport avec cette expérience, à quoi, Martin Vetterli, reconnaît-on un étudiant brillant?
Alors, ça c'est une très bonne question. Alors, c'est comme chez les artistes, il n'y a pas un type d'étudiant brillant. Parce que les artistes peuvent être créatifs et brillants dans plein de styles différents, c'est ça qui fait les artistes. Et chez les étudiants, surtout dans ce type de recherche qui n'est pas purement mathématique. Nous, on fait des sciences appliquées, donc il y a un côté créatif, un côté ingénieur, un côté mathématique. Enfin, il y a plein de dimensions différentes. Et là, j'ai eu des étudiants dans plein de dimensions différentes. J'ai eu des gens qui étaient fabuleux en mathématiques, mais peut-être... Voilà, il fallait leur donner le problème et ils allaient le résoudre. D'autres gens qui étaient extrêmement créatifs, mais peut-être pas. OK, et des gens qui combinaient tout. Et ça, évidemment, ça, c'est le nirvana.
Le plus grand défaut d'un scientifique ?
Ah, bon, c'est bien connu. C'est qu'on a une partie du cerveau très développée et l'autre un peu sous-développée. Celle des relations humaines, de comprendre la complexité, d'avoir de la patience pour la politique, enfin toutes ces choses-là. Okay? Parce qu'on pense que voilà, tout est un problème sur lequel on réfléchit, on trouve la solution, puis tout le monde va comprendre que c'est ça qu'il faut faire. Alors essayez d'aller au Parlement et de faire ça, puis vous comprendrez que c'est plus compliqué.
Parallèlement avec ses aptitudes, ses compétences, ses connaissances, est-ce qu'un scientifique est plus stressé, anxieux qu'une personne lambda qui n'a peut-être pas toutes les connaissances à disposition ?
Ah non, ça je verrais pas. Alors si vous voulez, si vous êtes climatologue, je pense que vous avez de l'anxiété évidemment. Mais si vous êtes mathématicien super théorique, pourquoi vous serez quelle anxiété, right? La planète peut disparaître, les problèmes mathématiques resteront.
Les situations, c'est sûr.
Et pour terminer cette émission, généralement, on laisse une carte blanche à nos invités. Vous avez 30 secondes pour dire ce que vous voulez.
Moi, j'aimerais simplement remercier la société suisse, le contribuable, monsieur, madame, tout le monde, qui, par l'intermédiaire d'un système qui fonctionne extrêmement bien, payent leurs impôts, font qu'on a un système éducatif en Suisse qui est excellent, à tous les niveaux. Hein, je ne parle pas de l'EPFL, je parle de l'ensemble du système éducatif, depuis la petite enfance, justement, jusqu'à l'EPFL. Et que j'espère qu'on remplit la mission qu'on nous donne, qui est d'aider la Suisse à continuer d'être sur le devant de la scène au niveau de la recherche, mais pas seulement ça, de produire les talents qui vont dans la société, pas seulement dans l'industrie, mais dans l'enseignement, dans la recherche, etc. Et qui font que la Suisse est un endroit qui fonctionne bien.
C'est donc le mot de la fin de Martin Vetterli. On vous souhaite bonne suite, finir les cartons et le meilleur pour la suite. Merci beaucoup.
Merci
Martin
beaucoup.
Merci à vous.